Nice est la cinquième ville de France. C'est le deuxième aéroport en France. Et l'équipe de foot de Nice est la première du classement de division 1. Incroyable. C'est un miracle. Il y a quelques années, Nice nous avait fait plaisir en gagnant la Coupe de France. Mais en fait, c'était un accident. Ils l'avaient gagné. Mais ils retournaient en deuxième division. Et là aussi, il y a un accident. Mais c'est un accident qui dure. On est leader de la division 1. Maintenant, on appelle ça la Ligue. Même si on n'est pas fanat de foot, on peut se réjouir. Et quelque part, on se demande en fait s'il n'y a pas une réaction d'amour propre de ces joueurs. Ils avaient gagné le passage en première division. Mais pour des raisons financières, ils étaient menacés de retourner pas seulement en division 2, mais en division 3, la Ligue nationale. Et au dernier moment, un arrangement a pu être accordé et ils se sont retrouvés en première division. Et c'est comme s'ils veulent vraiment montrer qu'ils avaient leur place en première division. Et donc, ça fait d'autant plus plaisir de voir ce bon résultat. Ça ne va peut-être pas durer. Qu'il y avait cette menace de rétrogradation. Rétrogradé. Backsliding. En foot, ça veut dire revenir à une division de moins bonne qualité. En conduite automobile, rétrograder, c'est revenir à une vitesse inférieure. On a un seul mot en français, il y a plusieurs mots en anglais, c'est pour ça que c'est difficile. C'est passer à un plus petit régime dans le domaine automobile. Mais dans le domaine de la speed, dans le domaine de la foi, on utilise aussi le mot rétrograde, qu'on traduit, qui veut dire en anglais, la traduction, ça veut dire glisser en arrière. C'est faire une marche arrière dans la foi. C'est reculer dans la foi avec le risque possible d'abandonner, de rejeter la foi. Il y a un terme savant, théologique, qui, pour désigner cet abandon de la foi, to designate. Backsliding, c'est le terme apostasie. Ça veut dire se tenir éloigné ou s'éloigner d'eux. Il y a toute une série de termes que l'on trouve dans la Bible pour désigner ce triste phénomène.
And there are many, terms used in the Bible to designate
On dit par exemple s'engager dans des voies tortueuses. C'est dans le psaume 125, par exemple. Dans Ésaïe, il est question de se détourner de l'Éternel. Dans la lettre aux Hébreux, il est question de se retirer pour se perdre. Pierre parle encore une fois de se détourner du Saint Commandement. Un auteur chrétien a dit qu'en fait, l'abandon de la foi et la vie chrétienne, c'est comparable à une petite fuite dans une chambre à air. C'est pas brusquement du jour au lendemain qu'on rejette tout. Mais c'est de façon imperceptible qu'on s'éloigne de Dieu. Et c'est souvent lorsque tout va bien qu'on a tendance à oublier notre dépendance sur le Seigneur. Quand on est malade, qu'on perd un être cher, qu'on a perdu son emploi, là, on se dit, mais Dieu, on pense à Dieu. Des fois, c'est pour lui demander, mais comment tu peux laisser ça arriver m'arriver? Mais quand tout va bien, que j'ai du succès financier, matériel, sentimental, alors j'ai tendance à oublier le Seigneur. On dit que l'épreuve de la prospérité est bien plus difficile que l'épreuve de l'adversité. L'adversité, elle va déclarer nos besoins. On va réaliser qu'on n'est rien sans Dieu. Mais la prospérité nous fait croire que nous n'avons besoin de rien. Vous vous souvenez des paroles de Jésus à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse ? Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, alors qu'en fait tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. Alors qu'en fait, they don't know that they are. La prospérité nous fait croire que tout va bien. Alors que souvent, c'est en négligeant l'essentiel, notre relation spirituelle avec Dieu. Et c'est vrai qu'une fuite d'air, une petite fuite d'air, on la remarque pas tout de suite. On met de l'air dans les pneus à la station service. J'en mets toujours un petit peu plus pour être sûr que si ça fuit un peu, il y aura encore de l'air. C'est pas bon à faire, mais c'est une manie chez moi. Il suffit de presser un peu plus pour être sûr que c'est bien gonflé. Il y a le compteur officiel. gauge. Mais j'ai tendance à croire mes yeux et je vois si le pneu a l'air un peu arrondi, j'en mets un petit peu plus. Et c'est un peu la même chose. Par la vue, on pense que tout va bien. Alors que notre relation a commencé à se dégonfler. On vient peut-être encore aux réunions du dimanche, mais on n'a plus tellement la motivation de venir à une réunion de prière, à une réunion d'études en semaine. Peut-être qu'on a encore un moment avec le Seigneur le matin, si on en a un. Mais on est impatient d'avoir terminé pour faire toutes les choses qui nous attendent. On ne donne pas au Seigneur le temps de cette relation et d'éprouver sa communion et la joie que cela doit donner à nos cœurs. On lit moins la parole. On avait pris la résolution au début de l'année de remplir ces petits plans de lecture. Mais ça fait déjà 20 jours qu'on a raté. J'espère que vous ne savez pas de quoi je parle. Mais il y a un danger que, malgré que nos cœurs soient bien disposés au départ, Jésus-Christ prend petit à petit la deuxième place, la troisième place. Il n'est plus le centre de notre vie. Et c'est un problème qui existe depuis que le monde est monde. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu n'a plus été suivie à la lettre. On a commencé à écouter des suggestions qui venaient de l'ennemi. Et nous le voyons aussi dans ce passage que nous allons étudier aujourd'hui, Josué 23, le chapitre 23 de Josué. Et Josué veut mettre en garde le peuple d'Israël comme il veut nous avertir aujourd'hui de ce danger. Ça fait à peu près 20 ans que la guerre de conquête est terminée. Vingt ans de prospérité. Josué sent qu'il y a un vrai danger. Il veut donner un dernier message de départ. Il se sent vieux. Il se sent arrivé à la fin de sa vie. Peut-être parmi nous, il y en a qui se sentent vieux. Quand on voit l'âge qu'avait Josué, vous n'avez pas le droit de vous sentir vieux. Josué avait 110 ans. Même Jerry n'a pas 110 ans. Amen. Jerry est encore jeune et nous sommes tous jeunes par rapport à Josué. Et encore une fois, j'aime bien faire une parenthèse sur ce sujet. Nous vivons dans une société à l'esprit complètement tordu.
We're living in a society with a very warped spirit.
qui fait que les gens se sentent vieux dès qu'ils arrivent au grand 3-0, 30 ans. C'est un mensonge du diable. Je vois notre pasteur Chuck Smith. Il a 75 ans. Et il travaille de façon infatigable. Pour lui, le plus important reste à faire. Il n'est pas question de prendre sa retraite et d'aller à la pêche. Pour lui, il est question de continuer à être un pêcheur dans les mains du Seigneur. Et la vieillesse, vraiment, c'est pas une réalité physique. L'âge, ça se passe dans votre tête. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait moins bien. Et qu'il faut être prudent dans l'exercice physique. Au début de l'été, je me suis fêlé une côte en jouant au volley sur la plage. Mais je crois que c'est bon d'avoir envie de jouer au volley et de continuer à jouer au volley à 53 ans. Et à 60 et 70 ans, si on peut toujours le faire. Quelqu'un a fait une étude, enfin un groupe a fait, une université aux États-Unis a fait une étude pour savoir quand est-ce qu'on était vraiment vieux. Premièrement, lorsque vous vous sentez vieux et que vous allez voir le docteur en lui disant « je suis vieux ». Si c'est dans votre tête, vous allez vivre de cette façon. Deuxième point, c'est vous pensez que vous avez appris assez de choses, vous n'avez plus rien à apprendre. Troisième point, vous pensez que vous êtes trop vieux pour telle ou telle activité. Je suis trop vieux pour le volley, c'est fini. Non, je continuerai. Vous pensez, quatrième point, vous pensez que demain va rien vous apporter d'intéressant. Vous êtes blasé. La vie c'est triste, c'est morne. Cinquième point, vous n'avez plus aucun intérêt pour les activités des jeunes. Si vous voyez Mélisse, David et Sébastien dans une pièce, vous sortez. Vous évitez de leur parler. Les jeunes, ça fait peur. J'étais tellement encouragé. Mélisse veut que les jeunes aient leur propre salle dans notre nouveau complexe et que ce soit eux qui la décorent. Et je dirais, vous êtes vieux si vous ne les laissez pas faire. Sixième point, vous préférez parler plutôt qu'écouter. C'est tellement important d'apprendre et de continuer à écouter les autres. Le septième point, c'est que vous regrettez le bon vieux temps. Ah, quand on se réunissait à Calvary, à Fragonard, on était cinq. Tous les dimanches, on mangeait ensemble. C'était le bon temps. Good old days. C'est une parenthèse, mais c'est quelque chose de très sérieux. Ne laissez jamais votre âge être une raison pour le Seigneur de ne pas vous utiliser. Josué, lui, savait qu'il était vieux. Vous savez pourquoi ? Le Seigneur lui avait dit. Josué 13, il était déjà dit, Josué était vieux d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé. Donc là, il fallait se rendre à l'évidence. Mais ce qui est certain, c'est que même à 110 ans, il voulait encore être utilisé par le Seigneur, et cette façon d'être utilisé, c'était de leur donner un message final. Pendant sa vie, Israël était demeuré fidèle à Dieu. Mais maintenant, sur le point de mourir, il avait peur que Israël se détourne de Dieu. Et donc il rassemble les Israélites. Au chapitre 23, il va d'abord s'adresser aux leaders de la communauté. Et on verra qu'au chapitre 24, il va s'adresser à tout le peuple. De toute évidence, Josué a déjà remarqué des signes avant-coureurs qui montrent que le peuple s'attiédit. Ils se refroidissent dans leur zèle. Et lorsqu'on parle de se refroidir, on pense tout de suite encore une fois à Jésus, le message de Jésus à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Verset 16 du chapitre 3. Un petit moyen pour se rappeler de quelques adresses dans la Bible. Je l'ai déjà partagé, mais je le rappelle. Vous connaissez Jean 3:16. Souvent, on connaît des versets, mais on ne connaît pas leur adresse. Si vous connaissez 3:16, vous connaissez l'adresse. Et après, quand vous voyez un livre, allez voir ce qui est dit au verset 3:16. Et là, dans Apocalypse 3:16, on a un verset très fort. Il reprochait à l'église de Laodicée d'être devenue tiède. Verset 15, il dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Des termes très crus, mais des termes très forts. J'espère que vous n'avez pas pris un petit déjeuner trop copieux ce matin, parce qu'on va parler un peu de ce que veut dire le mot vomir. Qu'est-ce que ça veut dire que vomir ? C'est rejeter par la bouche quelque chose qui vous rend malade. Et le Seigneur leur dit que les gens qui sont ni chauds ni froids, mais qui sont tièdes, tiédasses, ça le rend malade. Et Josué, qui est une préfiguration de Jésus, va nous dire un peu la même chose. Souvenez-vous que lorsque les gens appelaient Jésus par son prénom, ils ne l'appelaient pas Jésus, Jesus, Jesus. Ils l'appelaient Joshua. Le nom hébreu qui est la même chose que le nom hébreu de Josué. Qui veut dire Dieu sauve ou le salut de Dieu. On va lire ensemble le chapitre 23. Je lis dans la version à la colombe. Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Josué était vieux d'un âge avancé. Décidément, s'il n'est pas sûr d'être vieux, c'est qu'il lit pas la parole. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux d'un âge avancé, et vous, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations à cause de vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui restent à conquérir à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Pour ne pas vous mêler à ces nations qui restent avec vous, vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu et vous ne l'emploierez pas dans vos serments. Vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne vous prosternerez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez à ces autres nations qui restent avec vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Voici que je m'en vais aujourd'hui, où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Eh bien, de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les menaces jusqu'à ce qu'il vous ait détruit sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Si vous enfreignez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a promulguée pour vous, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans ce bon pays qu'il vous a donné. Amen. On voit ici la fondation biblique, la justification biblique des conférences, des retraites, des temps où on se met un peu à l'écart pour écouter la parole de Dieu, pour être exhorté. On voit cet exemple. Là, ils ont une conférence, une retraite. Josué invite tous les responsables, les anciens, les chefs, les juges, les officiers. Il leur parle à cœur ouvert.
Joshua is calling the leaders and the elders and the heads and judges and officers to all come together.
Et Josué, avant de partir, veut vraiment donner tout ce qu'il a. Quand on pense à ça, on pense à Paul qui, dans 2 Timothée 4, donne un avertissement aussi à son protégé Timothée. Quand il dit « Pour moi, me voici déjà offert en libation, c'est-à-dire en sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'est 2 Timothée 4, 6 et 7. Et pour continuer dans ce test de la prospérité, on peut se poser trois questions. Qu'est-ce qui est mis à l'épreuve? Qu'est-ce qui est testé? Et puis, la troisième question, c'est comment faire pour réussir ce test, cette épreuve? Qu'est-ce qui est testé lorsque les choses vont bien dans ma vie, en regard de ma relation avec le Seigneur? Les raisons de suivre le Seigneur. Vous avez tous vu dans vos boîtes aux lettres les affichettes des marabouts venus d'Afrique. Donc ce sont des guérisseurs africains. Et sur ce petit papier, c'est curieux parce que c'est toujours à peu près le même format. Le nom, les adresses, les prix changent, mais c'est toujours un peu la même chose. Et ils disent qu'ils sont spécialistes dans la chance, l'amour, la gloire, l'argent, la réussite.
Money.
Protection contre tous les dangers. Désenvoûtement.
Casting.
Affection retrouvée. Mal de dos. Là, ils ont un grand public. Grossir ou maigrir. Dans les deux sens. Retour de l'être aimé. Résultat garanti 100% pour la modique somme de 50 euros pour leur consultation. Et c'est vrai que des fois on a des problèmes de santé, des problèmes de famille, de mariage. Certains répondent à ces affichettes et d'autres se tournent vers Dieu pour recevoir son aide. Qu'est-ce qui se passe s'il ne répond pas à mes appels au secours tout de suite? Ça, c'est le test. Notre amour du Seigneur est testé. Encore une fois, est-ce que j'aime le Seigneur pour qui il est ou pour ce qu'il peut m'apporter? Je me souviens, dans notre famille, on avait un jeune neveu. Et ma sœur aînée est très généreuse. À chaque fois qu'elle le voyait, elle lui amenait des cadeaux. J'étais gêné quand il la voyait, parce que sa première question, c'était « Qu'est-ce que tu m'as amené comme cadeau ?» Et souvent, il y a des chrétiens, c'est « Dieu, qu'est-ce que tu m'as amené ? » Est-ce que j'aime le Seigneur pour lui-même ou pour ses dons? Ce qui est testé aussi, c'est la pureté encore de notre relation avec lui. Verset 12, le danger, c'est de ne pas avoir une pureté de relation, mais d'incorporer d'autres choses. D'aimer le Seigneur, mais aussi peut-être d'aimer la chance. Et lorsqu'il est question du verset 12, il est question de ne pas faire d'attelage disparate avec des non-croyants. Est-ce qu'en période de prospérité, je vais commencer à jouer au loto? Est-ce que je vais faire des choses qui n'appartiennent pas à un chrétien? Une autre chose qui peut être testée, c'est notre zèle pour ce que Dieu a de meilleur à nous offrir. Versets 3 et 4, Josué leur rappelle tout ce que Dieu leur a donné. Nous savons qu'ils ont un problème, ils ne se sont pas complètement débarrassés des nations qu'ils devaient exterminer, mais le Seigneur leur a donné la victoire, il a combattu pour eux. Il leur a donné ce territoire en propre, juste pour eux, mais ils ont laissé d'autres personnes être présents aussi. Ces nations restent à conquérir. Ils n'avaient pas fait la place nette. Quand tout va bien, il y a des fois là aussi on ne cherche pas vraiment le meilleur pour Dieu et on peut laisser le compromis entrer dans notre vie. C'est pas grave si je regarde un film qui n'est pas très édifiant. Tout va bien dans ma vie, le Seigneur doit vouloir me bénir. Le verset 6 nous rappelle que c'est notre obéissance qui va être testée dans la période de prospérité. Il leur dit de s'appliquer avec force à observer, à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans être à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. De ne pas s'en écarter juste un peu sur la droite ou même juste un peu sur la gauche. Avec le Seigneur, il n'y a qu'une position politique qu'on peut défendre. C'est la ligne de sa parole, au centre de sa volonté. On doit être tous des centristes, centrés sur lui. Verset 3 nous rappelle que notre mémoire va être mise à l'épreuve aussi. Quand tout va bien, on a souvent tendance à réécrire l'histoire. On a une tendance à enjoliver notre rôle dans cette histoire. Ce ne sont pas leurs victoires, ce sont les victoires du Seigneur. Si le Seigneur nous a permis de trouver ce local, nous a donné les fonds nécessaires à sa location et à son aménagement, nous devons prendre garde de ne pas croire que c'est parce que nous sommes super spirituels ou nous sommes meilleurs que tel ou tel groupe de chrétiens. C'est le Seigneur qui nous a fait ce privilège de nous confier ses ressources et il va nous tenir responsables de l'utilisation que nous allons en faire. Et finalement, notre sagesse va être testée. La parole dit que c'est l'insensé qui dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Et si nous nous éloignons de Dieu, si nous allons aimer les dieux des autres nations qui nous entourent, alors ça veut dire que nous sommes devenus complètement imbéciles, stupides. Mais vous dites, ça c'est... Je vais pas adorer les dieux des Cananéens. Mais est-ce qu'il y a dans votre vie des choses qui s'interposent entre vous et votre dévotion, votre consécration à Dieu ? La Bible est claire, ces choses qui vous empêchent d'avoir une relation totalement consacrée à Dieu, ce sont des idoles. Ce n'est pas seulement des choses comme l'alcoolisme, ça peut être vos études, ça peut être votre désir de trouver un partenaire pour la vie, ça peut être votre désir de réussir dans votre profession, ça peut être des diplômes. Je crois que Tonio a eu beaucoup de mal l'an dernier à avoir tant à travailler et avoir à mettre le Seigneur un peu de côté. Et c'était son travail, par la force des choses, était devenu comme une idole. Et je crois qu'il a senti qu'il s'éloignait de Dieu. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à gérer la situation. Mais il faut se poser la question, qui est le premier dans ma vie ? Et si ce n'est pas le Seigneur, alors vous adorez de faux dieux. Vous jouez à l'imbécile, nous dit la parole. Comment est-ce qu'on peut savoir où on en est ? Comment sait-on qu'on échoue dans cette épreuve de la prospérité ? Un premier test, c'est si on vous demande un témoignage de Dieu dans votre vie, et vous devez vous gratter la tête et vous sortez un exemple d'il y a 5 ans. Ah oui, le Seigneur, il y a 5 ans, c'était en 1997, oui, le Seigneur a répondu à une prière. Là, vous devez vous inquiéter. Un autre test, une autre façon de savoir, c'est est-ce que votre zèle pour la parole de Dieu a diminué ? Vous vous souvenez, quand vous êtes devenu chrétien, vous aviez votre Bible avec vous à tout moment, pas seulement pour la porter comme un charme, une protection, mais pour la lire, la dévorer. Mais maintenant, vous vous êtes calmé. La tendance est très forte. Et pourtant, quelqu'un pose une bonne question, est-ce qu'un adulte mange moins qu'un bébé ? Est-ce qu'un adulte doit manger moins qu'un bébé ? Et la réponse, bien sûr, dans le domaine physique, c'est bien sûr que non. Et un adulte doit, encore plus qu'un bébé dans la foi, se nourrir de la parole de Dieu. Un autre élément, c'est est-ce que votre cœur est partagé ? Nous avons lu le verset 7. Josué les exhortait à ne pas se mélanger avec les nations qui les entouraient. Et David dans les psaumes priait dans le psaume 86:11, Seigneur, unis mon cœur. 86:11 ou 12 ou 10. Donne-moi notre version second, traduit de façon un peu qui perd beaucoup, c'est donne-moi un cœur tout simple. C'est-à-dire pas avoir un cœur sophistiqué avec un côté qui aime telle chose qu'un chrétien ne devrait pas aimer, un amour du Seigneur, un amour de l'humanisme, etc. Une unité dans votre cœur qui fait que vous ne mélangez pas les choses, vous n'avez pas de, d'union avec des attelages disparates, comme dit Paul dans 2 Corinthiens. Un autre élément qui montre que j'échoue dans ce test de la prospérité, c'est que je constate dans mon cœur une diminution de la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous avertit que la crainte de Dieu, c'est le commencement, c'est la clé de la sagesse. Ici, il leur rappelle que les promesses de bénédiction sont bien sûr, ils ont pu vérifier qu'elles étaient totalement dignes de confiance, mais il leur dit que les promesses de malédiction, s'ils ne suivent pas les voies du Seigneur, sont tout aussi véritables. C'est un vieux mensonge de l'ennemi de nous faire croire que, en fin de compte, tout ça, c'est pas bien grave. La parole nous répète sans cesse les conséquences tragiques de ne plus obéir le Seigneur. Mais encore une fois, quand tout va bien, entre guillemets, on se dit ça doit pas être si grave. C'est un peu comme sur votre vélo, quand la fuite a commencé, vous pouvez toujours rouler. Mais si vous allez de Nice à Menton, arrivé à Menton, vous ne pourrez plus revenir à Nice. Il faudra appeler Paul pour qu'il vienne vous dépanner. Quelqu'un a dit, la seule chose à craindre, c'est une diminution de la crainte de Dieu. Donc des éléments pour savoir un peu où j'en suis. Où est-ce que vous en êtes, personnellement? Ne me le dites pas, mais faites un peu le point. Et comment est-ce que on peut réussir ce test, cette épreuve de la prospérité? Comment est-ce qu'on peut éviter la rétrogradation, nous qui avons été admis en première division? Premièrement, comme on l'a fait ce matin, se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que fait Josué, il leur rappelle toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour eux. Deuxième point, c'est de laisser Dieu travailler en vous aujourd'hui. Josué, nous le verrons, il leur parle d'aujourd'hui. Verset 8, il leur dit, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez fait, vous avez resté attaché à Dieu. Verset 9, personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu est le Dieu de maintenant. Il y a un humoriste qui disait, le passé m'attriste, le futur m'effraye, heureusement que j'ai aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut agir dans votre vie. Il n'a pas dit, lorsqu'il Moïse lui demandait, qui vais-je dire m'envoie, lorsqu'il l'a rencontré au buisson ardent, il n'a pas dit, je suis le grand j'étais. Il a dit, je suis le grand je suis, je suis celui qui est. Troisième clé du succès, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je continue à la creuser, à l'étudier, à la mettre en pratique? Est-ce que j'obéis à la parole? Il nous dit aussi, on l'a déjà répété plusieurs fois, restez séparés du monde qui rejette Dieu. Un de mes auteurs favoris, Alan Redpath, a dit, le chrétien séparé n'est pas quelqu'un qui renonce à des choses à contre-cœur. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur avant toute chose. Est-ce que ma première chose dans ma vie, est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui fourmillent? Nous devons cultiver la crainte de Dieu. Nous avons vu qu'il leur rappelle toutes les conséquences terribles qui se produiraient s'ils renonçaient à suivre Christ, à suivre Dieu de tout leur cœur. Et il leur dit, verset 23, 11, de cultiver l'amour de Dieu. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel votre Dieu. Josué 23, on sait un verset, vous pouvez encadrer ça. Et nous savons que aimer Dieu, ça veut dire obéir à ses commandements. Jean, dans son évangile, Jean 14, 21, nous disait les paroles du Seigneur qui disait « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Il nous dit de nous attacher à Dieu, verset 8. Comme il disait, c'est le même terme qui est utilisé dans la Genèse, lorsque le Seigneur Dieu expliquait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Attachez-vous à Dieu de tout votre cœur. Ça, c'est le message de quelqu'un plein de sagesse qui a été grandement utilisé par Dieu. Et le plus triste, c'est de voir que dans le livre qui suit, le livre des juges, nous allons voir que tous les dangers contre lesquels ils les avaient mis en garde vont s'accomplir. Plaise à Dieu que ces avertissements qui sont pour nous aussi, qui vivons dans les derniers jours, nous gardent de tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de Dieu. Laisser tomber Dieu, ça a des conséquences garanties. Il va y avoir la défaite. les problèmes qui vous attaquent déjà dans votre vie vont pas s'améliorer si vous laissez tomber Dieu. Vous allez être très malheureux. Vous êtes mal à l'aise. Quelqu'un dit, le chrétien qui vit dans le compromis n'est pas un chrétien heureux. Et c'est vrai. Vous avez connu trop le Seigneur pour être dans le monde et trop du monde pour être dans le Seigneur. Et le message que Josué veut leur faire passer, c'est qu'on peut compter sur la fidélité du Seigneur. Et peut-être que certains se demandent, mais alors on ne peut jamais être sûr qu'on est vraiment sauvé? On doit toujours s'inquiéter? En fait, non. Le Seigneur nous affirme que ceux que le Père lui a confiés, il ne va jamais les perdre. Mais la seule façon de le savoir, qu'on est vraiment sauvé, qu'on est vraiment dans la main du Seigneur, c'est de ne pas s'éloigner de lui. Si vous vous éloignez de lui, on peut penser que c'est parce que vous n'étiez jamais vraiment dans sa main. Et donc ça ne doit pas être un message de crainte et de peur, ce message, mais ça doit être un message d'encouragement, de dire qu'il y a un danger, mais que le Seigneur vous a donné toutes les armes pour contrer ce danger. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Prions.